Bonjour tout le monde. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir. Si vous avez votre téléphone, tournez avec moi d'une façon ou d'une autre dans le psaume 40. C'est le psaume que nous allons regarder ce matin. Psaume 40 qui dit au chef des chants de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, ô Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne me ferme pas les lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me gardent toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour m'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Après lecture de ce psaume, on voit que le psalmiste nous brosse un parfait portrait d'un enfant de Dieu. Les situations à travers lesquelles les enfants de Dieu passent, les difficultés, les défis des enfants de Dieu, ne sont pas différents des difficultés de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est notre façon de passer à travers qui est nettement différente. Et le psalmiste va nous donner des outils ce matin, comme enfants de Dieu, comment passer à travers ces temps-là qui peuvent être difficiles dans notre vie. Il nous présente ce tableau-là de l'enfant de Dieu avec ses hauts, avec ses bas, avec ses recours. Il nous donne les ressources qui sont à la disposition de l'enfant de Dieu pour vivre une vie heureuse malgré toutes les difficultés. D'abord, rappelons que un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui croit en son nom comme étant le seul nom capable de le sauver de l'enfer et de lui donner la vie éternelle. C'est ce que nous disons dans Jean chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la seule façon que nous puissions être un enfant de Dieu. Par nature, par défaut, on est des créatures de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous restions à cet état-là. Il veut que nous devenions ses enfants chéris, qu'on puisse lui l'appeler Père. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Naturellement, un enfant de Dieu s'engage à faire la volonté de Dieu en obéissant à sa parole. Et nous, les chrétiens, nous avons cette obligation-là. Dieu nous invite à faire cela, à obéir, à nous engager, à suivre ses commandements, à l'aimer. Jésus-Christ va dire à ses disciples, en fait aux pharisiens, quand ils voulaient savoir qui sont tes frères, qui sont tes sœurs, etc. Jésus-Christ dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Fait que ce matin, tous ceux qui sont là, qui sont ici, qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes des frères et sœurs de Jésus-Christ, n'est-ce pas un privilège? Nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Mais il y en a peut-être parmi nous ce matin qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui sont seulement des créatures de Dieu. Et ce message, vous ne pouvez pas l'appliquer malheureusement si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. De toute façon, vous ne voudrez pas appliquer ce message-là si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alors, ne partez pas d'ici ce matin si vous n'êtes pas un enfant de Dieu avant de faire la paix avec Dieu, de demander pardon et de devenir, d'accepter Jésus-Christ et de devenir un enfant de Dieu. En devenant un enfant de Dieu, par contre, on devient dépendant de Dieu. On dépend de lui pour tout. Premièrement, pour le salut, n'est-ce pas? Mais pas juste ça, mais pour tout ce qui vient avec pendant notre vie. On dépend de lui, mais pour être dépendant de lui, il faut lui faire confiance. C'est l'étape qu'il faut franchir, à nous amener à lui faire confiance et qu'on devienne nettement dépendant de lui. Et quand on aura développé cette confiance en lui, ben, on va développer une relation intime avec lui. Une relation qu'un père veut avoir avec son fils. C'est cette relation-là qu'il offre à chacun de ses enfants, notre Dieu. Il veut avoir cette relation avec ses enfants. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, le psalmiste, après avoir cette présenté, maintenant, il dit dans le verset 2, « J'avais mis ma confiance, mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mon cri. » Alors, on comprend dans ce verset-là que le psalmiste David, qui est l'auteur de ce psaume, il nous fait une confidence. Il nous dit, « J'avais mis ma confiance en l'Éternel. » Et le résultat de cette décision de mettre sa confiance en l'Éternel, c'est que l'Éternel s'est incliné vers lui et a écouté ses cris. Cette décision de mettre sa confiance en l'Éternel a ouvert la porte à toute une intimité, n'est-ce pas? Et de ce fait, cette intimité qu'il a développée avec son Dieu, il n'a pas peur de lui confier ses peines. Il n'a pas peur de lui confier ses craintes, ses défaites. Mais non seulement cela, il peut aussi librement confesser à Dieu comment il l'aime. Il peut le louer, il peut lui partager ses joies, ses victoires. Il peut partager ces joies-là et sa reconnaissance avec son Dieu par des louanges. Et ça, c'est le portrait de l'enfant de Dieu qui veut partager ses peines avec son Dieu, qui a cette relation intime où il peut ouvrir son cœur à son Dieu, sachant que Dieu s'incline et Dieu l'écoute et Dieu va répondre. Cette écoute donne accès au pardon d'abord. Dieu est prêt à nous pardonner si nous demandons, parce que naturellement on est des pécheurs, on ne fait pas l'affaire devant Dieu. On n'est pas saint aux yeux de Dieu. On a des péchés et il faut premièrement dans cette relation-là demander pardon à notre Dieu. Et avec le pardon vient la consolation. Notre Père nous écoute, il entend nos cris, et si on est en deuil, il veut nous consoler. Si on en est affligé, il veut nous consoler. Il veut apporter la délivrance. Tout cela, c'est grâce à cette confiance, cette intimité que nous avons établie avec Dieu. Il nous relève et nos cœurs d'enfants reconnaissants sont en paix, nos cœurs sont en paix parce que nous avons confiance en lui. Et cette confiance que nous avions déjà probablement en lui, est renouvelé parce qu'on l'a vu une fois de plus à l'œuvre dans notre vie. Et c'est ce que le psalmiste nous confie. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Est-ce que vous avez mis votre confiance en l'Éternel? Oui, pour le salut, oui. C'est la première chose à faire pour mettre votre confiance, pour avoir la vie éternelle, c'est de confier en l'Éternel. Mais vous savez, à travers les difficultés de la vie, on a besoin de mettre confiance en l'Éternel. Il est toujours là. De toute façon, il nous écoute. Mais c'est à nous de prendre cette décision-là, de mettre notre confiance en l'Éternel. Dans les versets 3 et 4, David nous dit, puisqu'il avait mis sa confiance en l'Éternel et que l'Éternel s'était incliné vers lui, on voit cette relation-là où Dieu l'écoute, il a vidé son cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait, l'Éternel a fait? Il dit, il m'a retiré de la force de destruction, du bas-fond, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Juste en lisant ce texte-là, il n'est pas, on ne peut pas exactement dire, à partir de ce contexte, dans le chapitre 40 des psaumes, de quelle force de destruction ou de fond de boue dont il est question que David parle, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons que le roi David a vécu des situations extrêmement difficiles dans sa vie, n'est-ce pas? Nous savons, nous avons passé quasiment un an ou deux ans à étudier 1 Samuel et 2 Samuel. Toute sa vie a été exposée devant nous. Nous avons été bénis par cette étude sur la vie de David. Mais en regardant tout ce qui est la Bible nous apporte sur la vie de David, on peut identifier certains événements qu'on pourrait qualifier de fond de boue ou de destruction, de force de destruction. Par exemple, si on se rappelle la persécution de Saül, imaginez un roi qui est roi. David est roi par le prophète Samuel. Et là, Saül est après lui. Il a dû fuir. Il a dû se cacher, s'isoler et menacer de mort. Il est menacé de mort. Dans l'affaire avec Bathsheba, vous vous rappelez? Il est rongé par la honte, par la culpabilité d'avoir tué Uri. Il a connu même la séparation avec Dieu. Toujours dans sa vie, la trahison et la révolte de son fils Absalom, vous vous rappelez? Il a été forcé de quitter le palais, son palais à Jérusalem, pour fuir dans les montagnes, abandonner sa famille, traîner dans l'humiliation. On peut dire que, oui, David a été traîné dans la boue. Il a été dans la boue, le fond de la boue, et il a été dans le fond de destruction. Je ne sais pas quel genre de destruction, de force de destruction de laquelle Dieu t'a sorti, mais nous savons que notre Dieu, c'est ce qu'il fait quand on s'approche de lui. Après être sorti de ses forces de destruction, si on parle de David, qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il l'a mis sur un roc solide. On sait que Dieu a affermi son royaume, il a unifié son royaume, il a sécurisé le royaume de David. Une autre bénéfice tiré de sa relation de confiance avec son Dieu, c'est que sa vie a repris une direction stable et ses pieds sont sur la terre ferme et ses pieds ne chancellent plus. C'est parce qu'ils sont posés sur l'Europe. Et c'est ce qu'il nous dit dans ce texte-là. Dieu l'a sorti de la force de destruction et il a mis son pied sur le roc solide, il a fermé ses pas. La sécurité et le secours de l'Éternel a suscité en David un mélange de sentiments, de gratitude, un mélange d'admiration et d'amour. Et comment cela se manifeste-t-il? C'est dans l'oration et la louange. David s'est mis à louer l'Éternel. On va le voir plus tard dans le texte. Il a adoré l'Éternel parce qu'il sait que Dieu, ce que Dieu l'Éternel a fait pour lui. Il a sorti de la force de destruction. Ce matin, je ne sais pas, comme j'ai dit tantôt, quel genre de force, dans quelle force vous êtes ce matin, dans quel genre de destruction que tu es ce matin, mais vous savez, vous pouvez confier tes instabilités au Seigneur. Confiez vos instabilités, vos situations difficiles, quelles qu'en soient, vos instabilités financières, émotionnelles, professionnelles, relationnelles, etc. Tu peux tout lui confier parce que c'est notre Père, nous sommes ses enfants. Et il veut cette relation d'amitié, cette relation intime avec nous. Et le psalmiste David nous donnent vraiment l'heure juste par rapport à sa relation et qu'est-ce que ça peut faire dans votre vie. Et si tu es seul, tu es fatigué, toujours tu as à te battre pour gérer des imprévus. Nous avons des imprévus à Montréal, de toutes sortes, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a plein d'imprévus. Des fois, on n'a pas le secours, on n'a pas les ressources, on n'a pas d'ancrage, on est vidé, on est impuissant face à telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Crier à l'Éternel. C'est ce que David a fait. J'ai crié à l'Éternel. Il m'a entendu. Il s'est incliné vers moi. Il m'a délivré. Dans les tempêtes de la vie, notre foi, notre espérance, vous savez, peut vaciller. Parce que nous sommes des humains. Nous n'avons pas cette confiance à toute épreuve dans le Seigneur. Et des fois, il nous devient tellement difficile qu'il nous est incapable même de prier. On n'est même pas capable de crier à l'Éternel parce qu'on vit une difficulté tellement énorme. Ça fait partie aussi de la vie de l'enfant de Dieu. Ça fait la vie, c'est la situation aussi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais l'enfant de Dieu sait ce qu'il faut faire. Il faut prier, il faut crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Au lieu de lever le poing contre Dieu, au lieu d'abandonner, il faut juste faire confiance à l'Éternel, parce que, regarde ce que le psalmiste nous dit, là, il est le seul capable de nous délivrer. Il n'y en a aucun comme lui. Il dit, fais attention pour ne pas faire confiance à les voir, ceux-là qui sont des menteurs, il dit dans le verset, il dit, ne vous tournez pas vers ceux-là qui sont des orgueilleux ou des menteurs, parce que vous allez être déçus. Si dans vos situations, vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, vous allez être déçus. Et c'est le témoignage, c'est l'expérience de David, dans le psaume 40. En effet, la louange des enfants de Dieu, surtout dans les épreuves, ça devient un témoignage vivant pour ceux qui les observent. C'est ce qu'il dit dans ce chapitre-là, verset 3, il dit, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » C'est l'Éternel qui a mis un cantique nouveau dans sa bouche. Pas que l'Éternel lui a présenté un livre des cantiques pour lui dire « chantez, chantez ça ». Non, c'est parce que Dieu a tellement fait de choses pour lui et quand il y passe, il ne peut que s'éclater en louange, en remerciement à son Dieu. Il dit « une louange à notre Dieu ». Il dit « beaucoup l'ont vu ». Ça veut dire qu'il y a des observateurs, des gens qui l'ont regardé, qui le suivaient, qui voyaient David dans toutes ces difficultés-là à travers lesquelles il passait et malgré ça, il louait l'Éternel. Et David dit « et quand ils ont vu cela, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Savez-vous que des difficultés, certaines difficultés que tu vives, Dieu veut que tu passes à travers pour que les autres voient ce témoignage de ce qu'il peut faire pour vous. C'est cela l'Évangile, c'est cela un enfant de Dieu qui va passer à travers des difficultés, mais Dieu étant avec lui, mais malgré les difficultés, il va être en joie, il va louer l'Éternel. Et cela va faire penser aux autres. Ouais, c'est pas normal, ce gars-là. Ils vivent tellement de difficultés. Et il aurait pu insulter Dieu et mourir, comme on l'a vu avec Job, n'est-ce pas? Les amis de Job, c'est ce qu'ils ont dit. Hey, Job, pourquoi tu souffres comme ça? Hey, maudit Dieu et meurt. Non, c'est pas l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien, c'est de se confier en l'Éternel et de louer l'Éternel. C'est tellement vrai que David, dans le verset 7, il dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en ma faveur. Waouh! Au milieu de tout ça, il a vu la main de l'Éternel qui plusieurs fois a multiplié, a répandu ses bienfaits pour lui, envers lui. Comment qu'il peut faire ça? C'est parce qu'il a compté. Il a compté pour avoir une multiple. Voir que c'est multiple, ces interventions-là sont multiples, c'est que David a dû compter. Il m'a sauvé de ci, il m'a sauvé de ça, il m'a sauvé de ci, il m'a sauvé de ça, etc. Ça, c'est le portrait de l'enfant de Dieu sauvé, l'enfant de l'Éternel, l'enfant de Dieu, l'enfant qu'il a sauvé. C'est le portrait qu'il puisse compter ses bienfaits. Et quand tu comptes ses bienfaits, tu te dis, mais pas grave, il m'a déjà sauvé de telle situation, il va le faire encore. Parce que Dieu, il n'a pas changé. C'est le même, il ne changera jamais. Alors, l'histoire de David qu'il nous présente dans le psaume 41, c'est un résumé de toute sa vie avec les épreuves à travers lesquelles il est passé. Mais quand David, il regarde tout cela, on dit qu'il a fait le décompte de tous les bienfaits de l'Éternel. Il a vu que l'Éternel a fait des choses merveilleuses pour lui. Il a vu que les plans de Dieu sont merveilleux, qu'il a accompli en sa faveur. Et puis il dit, mais il n'y en a pas un autre comme lui. Il dit, nul n'est comparable à lui. Et pour cela, puisque nul n'est comparable à l'Éternel, et que lui, il voit ça, il est convaincu de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux publier et proclamer tous ces bienfaits qu'il a faits. En réponse aux bienfaits de l'Éternel dans nos vies, l'enfant de Dieu doit en parler. Parler aux autres, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, en commençant par le salut. Mais David, qui continue le verset 6, il dit, mais le nombre est tellement grand, tu as fait tellement de merveilles pour moi, que je ne suis pas capable de les raconter. Es-tu capable de compter les merveilles de Dieu dans ta vie? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'a pas changé. Il travaille, il est à l'œuvre encore. Ce qu'il a fait pour David, il continue de le faire pour nous aujourd'hui. Il dit, j'aimerais en parler, mais je ne peux pas. Il y en a trop, il y en a trop. Il dit dans le verset 7, si tu ne désires ni sacrifice ni offrande, fait que pour lui, c'est comme Dieu a tellement fait pour lui, il dit, je veux lui offrir quelque chose en retour. Et dans son contexte, tout ce qu'il peut-être pourrait offrir, surtout dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est des holocaustes, c'est des offrandes. Mais il dit, mais tu ne demandes ni l'holocauste, ni victime expiatoire, fait que toutes les holocaustes qu'on peut faire à l'Éternel, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est gratos ce qu'il a fait. Mais il veut qu'on fasse une chose, par exemple. David, c'est ça qu'il a réalisé. Il dit, moi je voudrais, c'est comme un dilemme qu'il avait. Il dit, mais Dieu a tellement fait de choses pour moi là, j'aimerais lui rendre l'appareil, j'aimerais l'annoncer, mais c'est trop. Oh, je ne peux pas en parler, il y en a trop. Dieu ne veut pas de sacrifice, c'est ce que je voulais lui donner, mais il ne veut pas de sacrifice. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un dilemme pour lui là. Il veut être reconnaissant, mais il ne sait pas comment. Il dit dans le verset 8, alors, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est quoi ce rouleau-là? C'est la parole. Dans le contexte de l'Ancien Testament, ce rouleau-là, c'était le rouleau de la loi, n'est-ce pas? Mais lui, il dit là, je viens avec le rouleau écrit pour moi. As-tu déjà compris que la parole que tu as dans les mains, c'est écrit pour toi? As-tu des fois réalisé que ce texte-là, c'est pour moi? En fait, l'ensemble de la Bible, c'est pour les enfants de Dieu. C'est adressé à nous. C'est l'histoire d'amour de Dieu pour l'humanité et particulièrement pour ses enfants. David l'a réalisé. Il dit, oui, le livre, c'est pour moi. Le livre, c'est pour moi. Et puisque le livre, c'est pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je vais prendre un engagement. À partir de tout ce qu'il a lu dans le livre, toutes les réalités de Dieu, tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu lui demande, il dit, mais je ne peux pas faire autrement. Il a tellement fait pour moi. Je ne peux pas lui offrir un sacrifice. Il ne veut pas de mes sacrifices. Mais il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. C'est tout ce qui est sorti de sa lecture du rouleau. Il a compris qu'il faut s'engager. S'engager pour faire la volonté de Dieu. Il dit, ta loi est au fond de mon cœur. Est-ce que vous avez déjà pris des engagements après avoir lu la parole? Un texte qui nous interpelle. En fait, quand on lit la parole en général, qu'on voit ça, c'est pour nous. Dieu a tant aimé moi, qu'il a donné son fils pour moi, et que moi, j'ai une place avec lui. Il prépare une place pour moi. Ça vaut la peine de s'engager. S'engager à vivre pour lui. Et c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que le psalmiste a fait. C'est les louanges qu'il faut adresser à notre Dieu. C'est des engagements qu'il faut faire à notre Dieu. Et parce que Dieu a pris le temps de nous écrire une lettre d'amour, l'amour de son amour pour nous. Et ça se lit dans la parole de Dieu. Et une fois qu'on aura lu la parole de Dieu, nous devons faire des engagements pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu luttes avec le péché? Peut-être ce matin, vous avez lu la parole de Dieu, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est bon d'être baptisé? Mais le Seigneur nous demande d'être baptisés. Soyons des enfants de Dieu obéissants. Soyons des enfants obéissants. Et dans le chapitre, verset 10, il continue, il dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Il est comme ça, brûlé par la passion de parler de l'Éternel. Il dit, je ne peux pas fermer, je ne ferme pas mes lèvres. L'Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur la justice. Il parle de cette justice-là. Il ne cache pas la justice de Dieu, la bonté de Dieu dans son cœur. Il en parle à tout le monde. Il dit, dans le verset 11, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. Waouh! Quel modèle pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de publier les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que vous avez fait ça dernièrement? Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Publier les bontés de l'Éternel. Parlez de cette bonté-là à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à toute la famille. Dis-lui, dis-leur que Dieu est bon. Et ils vont le voir dans ta marche avec Dieu. Ils vont voir. Et si Dieu leur fait grâce, ils vont pouvoir eux-mêmes se confier en l'Éternel et faire de lui leur Dieu. Alors, dans les versets qui suivent, là, on voit, c'est comme pour moi, là, c'est comme dans les versets 12, il dit, l'Éternel ne me retient aucune compassion. Comme dit l'Éternel dit dans les versets 8 à 11, qu'il a pris des engagements avec Dieu, il dit, je veux faire ma volonté parce que sa loi est au fond de mon cœur. On a compris aussi que le fait qu'il n'était pas capable de rendre à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour lui, ben, il dit, mais je vais accomplir, il est en le psaume 116, c'est ce qu'il dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi? Alors, c'est la même situation ici avec David, il dit, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux rendre à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi dans le verset que nous avons lu 6 et 7, et dans le verset 8 à 11, il dit, bon, je vais faire la volonté de Dieu, et je vais publier ses statuts, je vais publier ses louanges, et c'est ce qu'il dit dans ces versets-là. On comprend aussi que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas? Il a voulu offrir des sacrifices, mais là, il a compris à la lecture de la parole, non, tu n'as pas besoin de faire de sacrifices. Obéis, c'est ce que Dieu nous demande de faire, et c'est ce que exactement que le prophète Nathan a dit à Samuel, n'est-ce pas? Dit à Samuel pour qu'il puisse dire à David, le prophète Nathan dit à David, les sacrifices, ça ne sert à rien, c'est l'obéissance. Alors pour nous les chrétiens, si on compte les merveilles de l'Éternel, on n'a pas besoin de lui offrir des sacrifices, il faut juste obéir à sa parole. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et on va conclure aussi que vraiment, l'Éternel est bon pour nous. Il ne nous refuse aucune compassion. Ses bontés, sa fidélité, nous gardons à toujours. Nous pouvons avoir cette assurance que notre Dieu il est fidèle et cette fidélité et cette bonté, c'est ça qui va nous garder dans les jours mauvais. Et dans les versets 13, c'est comme si il y avait un paradoxe quand on regarde le verset 13 versus les versets qu'on a vus au précédent, verset 2 jusqu'à verset 7, 8 et 9, là. Où le psalmiste parle de la bonté de l'Éternel. Il parle comment heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Fait que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous raconte en première vue, au début du psaume. Il nous parle comment c'est bon. Comment c'est bon de faire confiance à l'Éternel. L'Éternel va te délivrer. Mais là, dans le verset 13, c'est comme si il y a un paradoxe. Parce que là, il dit, car tu, des maux sans nombre m'environnent. Mes châtiments, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne peux plus en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux sur ma tête et mon courage m'abandonne. Est-ce que vous avez vécu des situations comme ça des fois? Probablement que oui. Des maux qui t'environnent, des châtiments, des fois c'est causé par notre péché même. Oui, mais comment est-ce qu'on peut concilier ces deux-là? Un homme qui est heureux, dans quelques versets plus tôt, et là maintenant qui crie, qui dit, mais je suis malheureux, je perds courage. La façon, je pense, qu'il faut composer avec ça et comprendre cette conciliation, c'est de savoir que Dieu est présent dans les deux circonstances. Il est là. Quand tu es heureux, il est là. Quand tu es dans le pétrin, il est toujours là. Et de se tourner vers lui. La souffrance, vous savez, en tant que chrétien, ça nous permet de rencontrer Dieu. Nos maladies, nos bobos, surtout quand c'est des diagnostics du médecin, de cancer, de toutes sortes, ça nous permet de rencontrer Dieu et de crier à lui parce qu'on n'a pas d'autre source. On n'a pas d'autre source. Crier à lui. La souffrance de l'enfant de Dieu, ça l'humilie. Et ce n'est pas mauvais d'être humilié. Le psalmiste nous dit. Oui. C'est bon d'être humilié. C'est non, c'est bon pour nous les chrétiens d'être humiliés parce que ça nous purifie. Ça nous fait réaliser qu'on n'est rien, qu'on n'est rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes que rien. Dieu va utiliser ces outils-là pour nous ramener à lui, pour nous purifier et nous transformer à travers les souffrances que nous pouvons vivre dans notre vie. Mais il faut voir aussi que le bonheur de l'enfant de Dieu, là, c'est pas un statut temporaire. C'est pas quelque chose que aujourd'hui je suis heureux, demain je suis malheureux. Non. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est pas une situation fragile qui est liée aux circonstances du tout. C'est un état solide, c'est un état stable, c'est un état constant qui est basé sur Dieu lui-même, qui ne change pas. Je mets ma confiance en Dieu, il ne change pas. Il est bon pour moi, il est encore bon pour moi, il sera bon pour moi, peu importe les circonstances. Et ça, c'est ça, le bonheur que l'enfant de Dieu connaît dans les circonstances bonnes ou mauvaises. Il sait que Dieu est là, il peut crier à lui et Dieu se sert de ces cris-là pour s'approcher de nous, pour nous écouter, pour répondre, pour lier une amitié avec nous, les enfants, ses enfants. Et le psalmiste continue et dans les versets 14 à 16, on voit qu'il prie parce que dans le verset précédent, verset 13, on voit un psalmiste qui vit un moment difficile. Il parle des maux sans nombre qui l'environnent. Il parle des châtiments de ses iniquités. Il est à bout, il dit « Je n'en peux plus. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. » Imaginez, tu as tellement de problèmes qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ta tête. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pas comme moi, là, par exemple. Il m'en reste plus, mais croyez-moi, j'en avais dans le temps. Voilà. Il dit « Mon courage m'abandonne. J'ai plus de force. J'ai plus de force. » Et tout de suite après, dans le verset, il dit « Veille me délivrer au Éternel. » Il s'est tourné vers l'Éternel. Il n'est pas resté dans la situation de « Non !» Il s'est tourné. Oui, ma situation, ça va mal. Mes ennemis, le péché, je subis la conséquence de mon péché. J'ai des châtiments. Mes châtiments sont plus nombreux que mes cheveux. J'ai plus de courage. Il n'est pas resté dans cet état-là. Il n'est pas arrêté. Tout de suite, il va tourner, il va dire, « Veuille me délivrer, Seigneur. » Tu peux dire ça aussi dans tes circonstances. Ne reste pas là-dedans. Même si tu es dans, mais ne sois pas dans. Vois le Seigneur qui est là. Dis, Seigneur, comme il a fait le psalmiste, « Veuille me délivrer, ô Éternel. Viens, viens en hâte à mon secours. » Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour m'enlever, et qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Tous ceux qui se moquent de moi, oui, qu'ils soient dans la honte, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'elle veut. Nous pourrons demander justice au Seigneur. Seigneur, c'est ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Pour nous sortir du pétrin, pour nous délivrer. On voit tout de suite que le psalmiste, il sait quoi faire. C'est un homme d'expérience. Il vit un temps difficile, il se tourne vers le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin, parce que nous allons vivre les mêmes situations, sinon même pire, nous allons les vivre. Mais avec Dieu, nous allons faire des exploits, c'est ce que la parole dit. C'est la chose à faire quand on vit des situations difficiles. Il faut crier à l'Éternel, il faut prier. C'est la seule façon d'y arriver. Prier, faire confiance à l'Éternel et prie-le. Faire confiance à l'Éternel, crie à lui. Vide ton cœur, n'aie pas honte. Vide ton cœur, c'est ton Dieu, c'est ton Père. Regardez, il s'exprime à Dieu comme si Dieu était absent. Mais Dieu le sait. qu'il vit ces moments-là, mais Dieu veut que nous nous adressions à lui. Il veut, c'est ce qu'il veut que le chrétien fasse. Oui, Dieu sait que tu vis des situations difficiles. Il sait que tu n'as pas de travail. Si tu as des fins de mois assez serrées. Oui, il sait ça. Mais il veut que toi, tu ailles vers lui pour lui déclarer ta dépendance. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est ce qu'il veut. Après cette prière-là, dans les versets 12, on a vu comment il a affirmé sa confiance à l'Éternel. Le verset 13, il va parler de ces mots qui l'environnent. Et le verset 14, tout de suite, il va prier, adresser, crier vers l'Éternel pour le délivrer. Mais tout de suite après, on voit dans le verset qui change, dans le verset 17, là, c'est comme si le ton change. Le ton change. Après cette prière à l'Éternel, ce qui est adressé à l'Éternel, bien entendu, il dit, dans le verset 17, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. C'est ce que le Seigneur veut. Que tu ne restes pas dans la situation, là, tu te plains, oui, Seigneur, ça ne va pas, etc. Non! Tu t'es tourné vers lui, c'est fini. Il va s'en occuper. Fais-lui confiance, il va s'en occuper. Que tous ceux qui te cherchent, as-tu cherché l'Éternel pour toutes tes difficultés? Oui, tu l'as fait, et oui. Sois dans l'allégresse. La solution s'en vient. On ne sait pas quand, mais ça va venir. Ça va venir. Le Seigneur veut qu'on soit dans la joie, même si on vit des moments difficiles. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. La dernière fois que tu as dit ça, c'était quand? Ce matin, quand tu chantais, je t'encourage à le dire en tout temps, à la maison. Quand tu penses au bienfait de l'Éternel pour toi, le salut en Jésus-Christ premièrement, et toute la panoplie des choses, des bienfaits que tu vis chaque jour, disons, exalté soit l'Éternel. C'est le modèle que David nous donne pour l'enfant de Dieu qui va vivre des temps difficiles, mais qui sait que son Dieu est là, qui va s'adresser à lui et qui va l'adorer. Parce que c'est la réponse et ça vient bientôt. Pourquoi ceux qui cherchent l'Éternel doivent-ils être dans l'allégresse? Ce n'est pas une question piège, mais on sait aussi que dans le psaume 34, verset 6 à 7, il dit, quand on tourne les regards vers lui, qu'est-ce qui arrive? On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de quelque détresse? De toutes les détresses. Ça, c'est la promesse que nous avons en Christ. Si tu t'es tourné vers l'Éternel, et je t'encourage, je t'exhorte à te tourner vers l'Éternel, premièrement pour ton salut, assurance de ton salut avec lui, assurez-vous que vous allez passer l'éternité avec lui, et c'est gratuit, ne sortez pas de cette place ce matin sans devenir, comme le texte dit, un enfant de Dieu, en plaçant ta confiance en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul pour ton salut. Maintenant, ça ne t'évite pas les autres bobos de la vie. Les difficultés de la vie, on va le vivre comme tout le monde. Mais notre façon de les approcher, de passer à travers, ça va être différent parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous à travers tout cela. Le psalmiste conclut avec un élan d'effort et de confiance et d'encouragement dans les versets qui suivent. Il dit, « Moi, je suis malheureux, indigent. » Peut-être c'est la situation de certains d'entre nous. Moi, le premier, on est tous des malheureux, des indigents. Mais on a un Dieu qui a tout. N'est-ce pas? On a Dieu qui a tout. Et ce qui est intéressant, le psalmiste, il dit, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Et quand le Seigneur pense à toi, tu es plus malheureux. N'est-ce pas? Quand nous savons que le Seigneur pense à nous, on est riche. On est riche parce qu'il va pouvoir à tous nos besoins avec grâce et gloire en Jésus-Christ. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Fait que le psalmiste peut terminer comme ça avec cet encouragement pour nous dire que tu penses en fait que tu es pauvre, indigent, mais sachez que l'Éternel, il pense à toi. Tu es mon aide, il va aller plus loin, tu es mon aide, mon Seigneur et mon libérateur. Pensez à tout ça, le Seigneur est ton aide et ton libérateur. Et ça, ce n'est pas des paroles lancées à l'air, ça. c'est pas des paroles, c'est des vérités confirmées par la Bible, par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour notre glorification. Pour finir, le psalmiste, il dit, mon Dieu ne tarde pas. C'est comme si pour moi, il a vidé son cœur à l'Éternel. Dans l'autre verset, il dit, quand est-ce que tu vas répondre, Seigneur? Mais là, il est confiant, il dit, je sais, il ne tarde pas. Mon Dieu ne tarde pas. Savez-vous que ton Dieu ne tarde pas? Peu importe, si la solution n'est pas là, sachez que ton Dieu, il ne tarde pas. Il arrive tout le temps au bon moment. Il répond. Il veut ce temps-là pour t'approcher de lui. Pour t'approcher de lui dans l'adoration, lui faire confiance. Même si la réponse prend du temps, mais sachez que la réponse s'en vient. Le Seigneur pense à toi et sa réponse va arriver au bon moment. Le psalmiste dit, mon Dieu. Le psalmiste dit, mon Dieu. Et toi, tu veux dire, ton Dieu. Nous ensemble, on peut dire, notre Dieu, il ne tarde pas, il n'est jamais en retard. Notre Dieu, il n'est jamais en retard. Que l'Éternel, notre Dieu, dans sa grâce, nous aide à nous modeler sur ce parfait modèle de David, de l'enfant de Dieu, qu'il nous a brossé ce matin, qui vit des difficultés de toutes sortes, mais qui s'accroche à son Dieu, sachant que son Dieu est capable de répondre à ses besoins, qui va le délivrer en son temps. Mais entre-temps, il veut nourrir aussi, quand on met notre confiance en l'Éternel, il veut nourrir une relation, il veut qu'on nourrisse cette relation-là avec lui, dans l'étude de sa parole, dans la proximité, dans la prière avec lui, et en nous engageant à lui obéir, sachant que toutes nos prières sont entendues, et que pas grand temps, pas longtemps, la réponse s'en vient. Heureux l'homme, heureux la femme, qui place sa confiance en l'Éternel, et que tous ceux qui cherchent l'Éternel soient dans l'allégresse et se réjouissent en lui. Amen.